Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est, paraît-il, un des secrets les mieux gardés de l'ONU, la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle date du 18 décembre 1990 et c'est justement elle que les Nations Unies commémorent en cette journée internationale des migrants. Le texte, très complet, pourrait et devrait avoir la même notoriété que, par exemple, la Convention sur les droits de l'enfant. Il n'en est rien, rares sont ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est le cas en Europe, et pour cause, aucun pays membre de l'Union européenne n'a ratifié cette convention entrée en vigueur en 2003. Une absence étonnante dans la mesure où l'Europe est en général plutôt volontariste lorsqu'il s'agit de revendiquer la défense des droits fondamentaux. À l'époque de l'élaboration du texte, l'argument avancé était que les législations nationales et communautaires étaient déjà suffisamment protectrices pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Aujourd'hui, ce serait plutôt le contraire. Les Européens, divisés sur les questions migratoires, ont tendance à renationaliser cette question et pour certains, à durcir leur politique. Alors l'Europe doit-elle signer la Convention de l'ONU sur les migrants ? C'est la question que nous posons ce soir et ce dans le cadre de cette journée spéciale que nous vous proposons depuis ce matin sur France Culture à propos de l'Europe et de sa ou de ses plutôt politiques migratoires. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Emmanuel Blanchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez le réseau Migre-Europe, qui est un réseau européen et africain de militants et de chercheurs dont l'objectif est de lutter contre la généralisation de l'enfermement des étrangers. Ça, c'est ce qu'on peut lire en présentation sur le site de Migre-Europe, qui sort chaque année, c'était le cas au mois de novembre dernier, un atlas des migrants en Europe, c'est chez Armand Collin.
Et c'est la troisième édition en français.
Et vous êtes par ailleurs maître de conférence au département de sciences politiques de l'université Versailles-Saint-Quentin. Pour discuter avec vous, Gérard-François Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Géographe et démographe, vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne, vous dirigez la revue Population et Avenir, vous avez publié en 2016 avec Pierre Verluise, Géopolitique de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Vous avez un CV long comme le bras. Je pourrais ajouter également que vous êtes membre du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More. Et puis, notre troisième invitée, elle est à Chambéry, en duplex des studios de France Bleu Savoie. Il s'agit de Mariette Grange. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Global Detention Project à Genève. Je ne sais pas s'il faut d'ailleurs le dire à l'anglaise. Vous pouvez peut-être juste nous dire un mot rapide de ce qu'est cet institut. Je ne sais pas si c'est un institut d'ailleurs.
Nous sommes un petit centre de recherche. Nous avons été créés il y a une dizaine d'années au sein d'une université en Suisse. Et nous sommes devenus une association, une ONG indépendante il y a environ 3 ans. Et nous nous concentrons sur la recherche sur la détention liée au statut migratoire, à savoir quels sont les pays qui mettent en détention les personnes qui n'ont pas de permis de résidence ou qui sont entrées sans visa partout dans le monde. Et nous examinons la législation nationale, internationale et les conditions de détention.
Voilà, et vous le faites depuis déjà quelques années, puisque vous avez notamment suivi d'assez près l'élaboration de cette convention de l'ONU sur les droits des migrants dont nous allons parler ce soir et qui va aussi nous permettre d'évoquer ce qu'est la politique européenne migratoire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, peut-être pour commencer la discussion avec vous trois, que cette convention donc, qui date de 1990, c'est aujourd'hui, disons, le texte international le plus complet qui existe en matière de droits des migrants, Emmanuel Blanchard?
À la fois, c'est sans doute le texte le plus complet, mais c'est aussi un texte qui compile beaucoup d'autres textes. Parce que si vous lisez cette convention, elle commence par rappeler la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes sur les droits économiques et sociaux, la Convention sur les droits de l'enfant, les conventions sur l'abolition de la torture, et bien d'autres encore. Elle fait aussi référence à des textes de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec des textes qui ont du travail forcé à beaucoup d'autres formes de travail. Mais il est vrai qu'elle apporte aussi une sorte de plus-value, c'est-à-dire que si notamment on développe son sigle complet, qui n'est pas simplement la Convention sur le droit des migrants, mais sur les droits de tous les migrants. C'est-à-dire qu'elle insiste particulièrement, on verra que ça peut être ambigu, sur le fait qu'il s'agit
et leur famille, d'ailleurs.
Et leur famille, les membres de famille. Il s'agit de donner des droits, de reconnaître des droits, de faire valoir les droits, à la fois des migrants en situation régulière, mais aussi de ceux qui sont dits en situation irrégulière. Et en cela, c'est une convention importante, même si l'ambiguïté fait que, sans doute, il y a une dichotomie trop forte qui est faite entre migrants migration régulière et irrégulière qui peut aussi fragiliser les droits les plus fondamentaux. On peut penser au droit à la vie, on peut penser au droit à vivre en famille des migrants et des migrantes dites en situation irrégulière.
Gérard-François Desmonts, l'importance de ce texte, est-ce que c'est une importance qui vous semble avant tout symbolique ou bien est-ce que c'est aussi une importance parce que c'est un texte qui permet un certain nombre de mesures, ou en tout cas qui peut être opposé directement et facilement lorsque les États qui l'ont signé contreviennent à ce texte.
Bien, vous posez la vraie question, c'est tout le problème de la méthode de l'ONU et des conventions internationales qui se multiplient, c'est-à-dire que c'est très bien de se donner bonne conscience en écrivant des textes, en les faisant voter et ratifier par les États, mais le problème, c'est est-ce que ces textes sont mis en œuvre? Le premier étant tout simplement la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui comprend quand même deux articles sur la question des migrations, qui sont très loin d'être appliqués par tous les pays du monde, ce qui est extrêmement regrettable pour les droits de l'homme. Parce que si tout simplement cette déclaration de 48 était appliquée, on aurait plus de dictatures qui auraient sauté au cours des dernières années, puisque je vous rappelle que la chute du rideau de fer est liée en fait au flux migratoire des Allemands de l'Est qui ont réussi à obtenir de la Hongrie qu'elle coupe les barbelés. Alors la situation en plus que montre cette déclaration, c'est lorsqu'on regarde la liste des pays qui l'ont ratifiée. Et c'est là qu'on voit que la méthode de l'ONU devrait être modifiée, puisqu'on a une vingtaine de pays qui l'ont ratifiée. Alors on trouve la Libye. On n'a pas l'impression, même sans avoir lu en entier la déclaration, que la Libye applique cette convention. On trouve la Turquie, quand on sait comment la Turquie s'est organisée pour nourrir les passeurs mafieux au cours de ces dernières années, on s'interroge. Donc ça pose un véritable problème, dans la mesure où il me semble que l'ONU devrait consacrer plus de temps à permettent aux pays à faire en sorte que les pays appliquent les conventions déjà existantes plutôt que de rédiger sans arrêt de nouvelles conventions.
Et peut-être que Mariette Grange, qui a accompagné de près l'élaboration de cette convention, puisqu'à l'époque, je crois que vous faisiez partie d'Amnesty International, pour quelles raisons les Nations Unies ont jugé utile d'élaborer un tel texte? Je rappelle qu'il date de 1990, mais ce qui veut dire que son élaboration forcément datait de quelques années auparavant.
Oui, tout d'abord, juste une petite mise au point. Justement, vous avez fort utilement rappelé que c'était le secret le mieux gardé des Nations Unies. J'avais entendu cette phrase par le nonce apostolique qui représentait le Vatican dans la rédaction de la Convention et qui s'était aperçu que pendant les 6 années qui ont suivi l'adoption de la Convention, il a fallu attendre 1996 pour que l'ONU publie le texte dans une petite plaquette. Donc, il était vraiment très, très confidentiel. Et il circule énormément de mythes au sujet de cette convention. Et juste pour préciser, en fait, il y a maintenant 51 États membres qui ont ratifié la convention et pas une vingtaine. Je reconnais que c'est peu puisqu'il y a 196 États membres de l'ONU maintenant. Mais malgré tout, on retrouve 16 pays d'Amérique latine qui ont ratifié ou 20 pays africains. Donc, je pense qu'il faut se garder en tant qu'occidentaux de ne pas être trop arrogant et de ne pas penser qu'une convention qui n'est pas ratifiée par les États occidentaux n'existe pas réellement. Ensuite, cette convention, comme vous l'avez rappelé, qui a été adoptée en 90, a été rédigée pendant une dizaine d'années. Elle a été rédigée pendant les années 80 à New York, au temps de la guerre froide.
Elle a été rédigée à partir de quel constat? C'est-à-dire, est-ce que c'était à partir d'un constat que les textes qui existaient n'étaient pas suffisants?
Voilà, tout à fait. En fait, c'était une initiative des non-alignés. C'était une initiative, et c'était très très rare. Cette convention s'inscrit dans un ensemble de 9 conventions internationales des droits de l'homme. Et c'était une initiative de l'Algérie, l'Égypte, le Mexique et le Maroc. Il faut savoir que la majorité des conventions de droits de l'homme ou de droits humains ont été rédigées à l'initiative de pays occidentaux. Donc déjà, elles se démarquaient. La raison pour laquelle déjà, notamment le Maroc et l'Algérie, qui avaient commandité des études initiales à la Commission des droits de l'homme, s'étaient rendus compte que leurs propres nationaux qui étaient immigrés en Europe étaient assez maltraités. Donc c'est vraiment né d'un besoin. Il faut savoir que ces 9 conventions internationales des droits de l'homme s'articulent autour de deux thèmes. Soit ce sont des conventions thématiques, par exemple des conventions sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, contre la torture, ou vous avez des conventions qui ont été rédigées, et c'est là la réponse à votre question, pour répondre à un besoin de protection d'un type de population. C'est comme ça que vous avez une convention plus ancienne sur l'élimination de la discrimination contre les femmes, qui avait été adoptée en 79. Ensuite, vous avez la convention sur les droits de l'enfant, donc de nouveau un groupe de population qui a besoin d'une protection particulière et qui a besoin d'une réitération des droits. Avant l'adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, les enfants étaient des objets de droit avant de devenir des sujets de droit. Vous avez la Convention donc sur les migrants et plus récemment, vous avez une convention qui a été adoptée en 2006 sur la protection des personnes en situation de handicap.
Alors, donc, Marielle Grange, non, juste pour qu'on puisse bien être dans un format aussi de discussion et que vous puissiez vraiment échanger tous les trois, en tout cas dans les choses nombreuses que vous avez dites tous les trois depuis le début, je retiens qu'effectivement, si cette convention aujourd'hui n'a été ratifiée que par une minorité des pays membres de l'ONU, est-ce qu'on peut se dire que finalement, puisqu'il s'agissait peut-être pour ces pays d'assurer une protection à leurs ressortissants lorsqu'ils se trouvaient à l'étranger, ça pourrait expliquer, Emmanuel Blanchard, que des pays d'immigration, comme par exemple les pays européens, aient été un peu moins, comment dire, volontaristes pour ratifier que les pays d'émigration, c'est-à-dire dont les ressortissants partent, essayer de trouver du travail, par exemple, à l'étranger, les aient davantage.
Oui, vous posez la bonne question, il me semble, parce que plutôt que de se demander pourquoi la Libye, à une certaine époque, et la Turquie ont signé cette convention, en rappelant que la Turquie, aujourd'hui, accueille beaucoup plus de réfugiés que ne fait la France et que ne font tout un ensemble de pays européens, plutôt que de se poser cette question, on peut se poser la question, pourquoi la France, pourquoi l'Union européenne, qui aujourd'hui peut signer des conventions internationales, n'ont pas signé cette convention? Effectivement, ça tient à plusieurs raisons. La première étant que ce n'est pas une convention qui a été prise à leur initiative. La seconde étant que c'est une convention qui a été signée en 1990, mais est entrée en vigueur en 2003, après que 20 pays l'ont ratifiée, et que donc c'est une convention qui est entrée en vigueur à une époque où les pays de l'Union européenne, notamment, prenaient des politiques qui étaient fondamentalement attentatoires à un certain nombre de droits fondamentaux reconnus par d'autres textes de l'ONU repris dans ce texte. Si je donne un seul exemple, cette convention reprend par exemple l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Et depuis cette époque, la fin des années 90, le début des années 2000, les pays de l'Union européenne, la France et l'Italie en tête par exemple, essaient d'imposer dans des conventions, dans des clauses internationales à des pays du sud de la Méditerranée, d'empêcher le ressortissant de traverser leurs frontières. Et ils ont fait insérer, donc ils ont contribué à faire insérer dans le droit interne d'un certain nombre de pays qui sont signataires de cette convention des clauses qui sont dérogatoires aujourd'hui à cette convention, en leur demandant d'empêcher les gens de traverser les frontières, alors que ce droit de traverser une frontière, de quitter tout pays, y compris le sien, est au cœur même de la logique de cette convention. Donc on voit là qu'il y a des raisons qui sont avant tout des raisons politiques qui font qu'un texte tel que celui-ci, c'est un texte qui, certes, pourrait avoir des répercussions juridiques, mais qui relève aussi de l'ordre symbolique. Or, aujourd'hui, pour la plupart des États dits d'immigration, et on verra au fur et à mesure de l'émission que la distinction entre États d'immigration, d'émigration, de transit est une distinction qui est tombée ces dernières années, ces États dits d'immigration, les États de la vieille Europe, aujourd'hui, leurs gouvernants ne veulent jamais apparaître en pointe dans la prise de décision et dans l'adhésion à des instruments de protection. On pourra juste rappeler que la France est un des pays au monde qui est signataire du plus de conventions et de pactes onusiens. Et le grand absent de ces pactes et de ces conventions onusiennes, c'est justement cette convention sur la protection de tous les travailleurs migrants et de leurs membres de famille.
Comment est-ce que vous expliquez, vous, Gérard-François Dumont, le fait que les pays de l'Union européenne, notamment, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, en l'occurrence, puisque c'est à l'Europe qu'on s'intéresse ce soir, n'aient pas signé cette convention? Est-ce que c'est parce que il y a des dispositions à l'intérieur qui iraient à l'encontre de ce qu'est la politique migratoire européenne aujourd'hui?
Non, la réalité, c'est que les pays européens considèrent qu'ils ont signé des conventions dont l'importance à la fois des textes et l'importance de l'application est encore plus grande que celle de la Convention de l'ONU. Et en particulier, bien entendu, la Convention de Genève sur le droit d'asile. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que Contrairement à ce qu'on dit parfois, la Turquie n'accueille aucun réfugié. Elle ne donne aucun statut de réfugié aux migrants qui sont en Turquie, sauf s'ils viennent de France. Mais s'ils viennent des autres pays du Moyen-Orient, il n'y a pas de statut de réfugié.
C'est vrai qu'il faut toujours être attentif sur les termes qu'on utilise, parce que juridiquement, ça n'a pas toujours la même signification.
Donc la Turquie, en fait, a bien effectivement signé la Convention de Genève sur le droit d'asile, mais avec des réserves qui font que la Turquie refuse de donner le statut de réfugié à un certain nombre de ressortissants de très nombreux pays du Sud et de tous les pays du Moyen-Orient. Deuxième élément, évidemment, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une convention extrêmement importante parce que, bien sûr, son contenu fait partie justement, avec son article 8, de cette possibilité du regroupement familial, mais surtout elle est extrêmement importante dans la mesure où il y a un tribunal chargé de juger si les États européens la respectent ou ne le respectent pas, c'est la Cour de Strasbourg. Donc, en ce sens, la Convention européenne des droits de l'homme est même plus importante que la Convention de Genève sur le droit d'asile, puisqu'on n'a pas d'autorité judiciaire qui prenne de décision pour vérifier si le droit d'asile est bien appliqué ou non.
Donc, plus importante et plus contraignante aussi, du coup ?
Ah ben, plus contraignante aussi, parce que n'oubliez pas que lorsque, par exemple, si vous avez une décision de la Cour de justice qui doit appliquer la Convention européenne des droits de l'homme contre un État, cet État peut être amené à modifier sa législation pour respecter la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Mais du coup, Gérard-François Dumont, l'Union européenne pourrait tout à fait signer et ratifier cette convention, puisque s'il y a des textes qui sont plus contraignants, à la limite, elle se donnerait une bonne image, tout en ayant un texte qui finalement n'a pas grande importance, si je vous suis.
Son idée, justement, c'est que elle a signé des conventions qui vont davantage dans les droits de l'homme que la convention de l'ONU. Voilà la thèse qui est défendue par les pays européens.
Si les États signaient juste des textes qui, en fonction de leur valeur juridique, ça se saurait quand même. Aujourd'hui, la force de la loi, c'est pas simplement sa valeur juridique, et de même pour une convention internationale. Aujourd'hui, le droit est aussi utilisé comme un signal symbolique fort, c'est tel qu'il est très souvent décrit, et il me semble que cet argument qui est justement énoncé très souvent par les gouvernements de l'Union européenne sur le fait qu'ils ne signent pas la convention, parce que de toute façon, ils ont déjà des législations internes qui seraient plus protectrices, par exemple, ou qu'ils ont déjà signé d'autres conventions, est un argument qui est un argument rhétorique, puisqu'ils pourraient tout à fait avoir cette mesure symbolique.
Mariette Grange, argument rhétorique, mais argument recevable malgré tout. Il y a quand même un certain nombre de textes quand même qui... Non, vous dites ?
J'abonde exactement dans le sens de ce qui vient d'être dit par Monsieur Blanchard, parce que de fait, et l'argument qui a été annoncé, qui a été rappelé par le professeur Dumont, je le connais assez bien, je l'ai entendu par de nombreux diplomates à Genève, je me souviens notamment de l'ambassadrice de la Suède qui m'expliquait que justement les conventions européennes ont déjà un spectre suffisamment large et protègent ces populations. Malheureusement, tous ces pays de l'Union européenne ont ratifié, se sont empressés de ratifier la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention contre la discrimination vis-à-vis des femmes et maintenant la Convention sur les personnes avec handicap, ce qui montre bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Si on trouve nécessaire et utile d'avoir une convention qui détaille les droits des enfants, dès lors qu'arrive la Convention sur les droits des migrants, pourquoi est-ce qu'on ne la ratifie pas? Et en fait, j'ai sous les yeux une étude très utile qui a été commandée par le Parlement européen en 2013 sur les défis de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les migrants. Et en fait, la conclusion des deux experts qui travaillent pour l'Organisation internationale des migrations, c'est qu'il ne... Je traduis à vue de l'anglais, mais c'est que le résultat des analyses montre qu'il n'y a pas de barrière insurmontable à la ratification et que la décision de ne pas ratifier est largely driven by political choice. C'est que c'est vraiment un choix politique. Et c'est vraiment... Ça n'est pas du tout... ça n'a pas comme origine la difficulté de la rédaction.
Mais quand vous dites que c'est avant tout, quand vous dites, Marielle Grange, que c'est avant tout un choix politique, Ça veut dire que c'est un choix qui serait potentiellement, on va dire, mal perçu par l'opinion publique. Bon, c'est tous hein, que l'opinion publique, ça n'existe pas, mais enfin quand même, utilisons malgré tout cette expression. Mais enfin, en tout cas, du coup, que les gouvernements sont extrêmement frileux à adopter des textes qui renforcent, a priori, les droits des migrants. Ou bien est-ce qu'il y a cette frilosité parce que ça changerait quelque chose et ça obligerait ces États à modifier leur politique?
En fait, les gouvernements sont frileux et se sont enferrés dans une définition de la migration qui fait que maintenant la migration devient extrêmement complexe à gérer pour eux. Et en fait, si par exemple, est-ce que vos auditeurs savent qu'il y a 3 millions de Français qui sont à l'étranger, qu'il y a 11 millions de Canadiens qui sont à l'étranger, qu'il y a 1 million d'Australiens, 9 millions d'Américains. En fait, quand les migrations nord-sud sont invisibles, parce qu'on appelle ces gens-là des expatriés ou des humanitaires. Et l'immigration du sud vers le nord, ce sont des migrants. Donc en fait, on s'enferme dans ce discours où on a l'impression d'une crise migratoire. Puisqu'il y a une crise, il faut des mesures de crise. On a tout un langage aussi autour de la migration qui identifie les migrants aux délinquants. Donc on a tout un discours ambiant qui fait que ça devient difficile pour les gouvernements d'annoncer qu'ils seraient prêts à adopter des mesures de protection des droits des migrants, puisque ces migrants sont très très souvent présentés comme une menace. Il faut savoir que le nombre de migrants dans le monde entier est resté extrêmement stable depuis les années 70. Les statistiques collectées auprès des États par l'ONU montrent qu'on est aux environs de 3% depuis 40 ou 50 ans, ce qui veut dire qu'il y a 97% des gens du monde qui restent chez eux. Donc, c'est vraiment une décision politique de ne pas ratifier. Et ça vient d'une mauvaise connaissance des faits et de la Convention elle-même.
Gérard-François Dumont.
Je pense qu'il faut aussi examiner l'effet réel de la Convention depuis qu'elle est en application. Or, malheureusement, l'effet réel, il est plutôt négatif. C'est-à-dire que la façon dont on avait traité la question du Cambodge et du Vietnam dans les années 70, donc bien avant cette Convention, était beaucoup plus humaine que la façon dont on a traité les migrants de Mésopotamie ces dernières années. De la même façon...
C'est quand même pas la faute de la Convention, ça.
Non, j'ai pas dit que c'était la faute de la Convention.
Mais
ça prouve bien que ça n'a pas avancé. Deuxième élément, bon, on voit donc un certain nombre de pays qui ont signé la Convention. Est-ce que pour autant, dans les pays du Golfe, que je connais bien, il y a une amélioration de la situation, alors que ces pays qui ont signé la Convention ont des ressortissants, et moi je considère que ces pays se sont un peu donné bonne conscience vis-à-vis de leurs ressortissants qui se trouvent à l'étranger, sans faire d'efforts réels pour leur permettre d'avoir davantage de liberté, davantage de droits. Parce qu'il n'y a eu aucune progression des droits des migrants, par exemple, dans les pays du Golfe. Et il suffit d'y aller pour se rendre compte qu'on n'est pas loin de pratiques qui sont souvent des pratiques d'esclavage et de non-respect, puisqu'on vole les passeports aux personnes à l'entrée dans le pays et qu'on peut les expulser à tout moment et qu'elles n'ont pas le moins de droits de réclamer quelques droits que ce soit.
J'entends dans vos propos, Gérard-François Dumont, qu'on fait un mauvais procès à l'Europe et qu'on devrait plutôt s'intéresser peut-être à d'autres
pays. Je pense qu'effectivement, alors en revanche, ce qui est très important dans ce qu'a dit madame, et il faut évidemment insister énormément auprès de l'opinion publique sur ce sujet, parce que la question migratoire est maltraitée. Et pourquoi est-elle maltraitée? Parce que l'opinion publique a l'impression qu'il y a des masses en mouvement. Il n'y a pas de masse en mouvement. Madame l'a très bien rappelé, il y a à peu près 250 millions d'immigrants dans le monde au sens de l'ONU. Un immigrant étant une personne qui vit dans un autre pays que celui où elle est née depuis au moins un an. Et la majorité de ces migrants, il faut insister, en fait, ont franchi régulièrement les frontières. Le regard médiatique que l'on porte sur notre télévision donnerait l'impression que la quasi-totalité des migrants, d'abord qui sont plus nombreux que ça, et qu'en plus ils auraient tous franchi les frontières de façon irrégulière d'un point de vue juridique. C'est totalement faux. Ce n'est qu'une minorité qui est dans ce cas-là.
Emmanuel Blanchard.
J'abonde totalement aux dernières phrases du propos de Monsieur Dumont, mais vos auditeurs et vos auditrices qui ont accès à Internet pourront aller vérifier la liste des signataires de la Convention. Il n'y a aucun État du Golfe qui a signé cette Convention de l'ONU, puisque justement, il y a trop dans cette Convention de paragraphes et d'articles relatifs à la question du travail forcé, aux droits syndicaux, etc., pour que ces pays les signent. Les pays qui sont signataires sont avant tout les pays d'Amérique du Sud, un certain nombre de pays d'Afrique, mais pas les pays du Golfe.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il est extrêmement étonnant que les pays signataires n'aient rien obtenu pour leurs ressortissants dans des pays où ils sont particulièrement maltraités.
Notamment les pays du Golfe, voilà ce que vous voulez dire. Ne vous disiez pas qu'ils avaient ratifié.
Ouais, mais en même temps, on ne peut pas incriminer la Convention de ne pas protéger dans des situations qui ne relèvent pas de cette Convention. En même temps, je ne suis pas un défenseur forcené de cette Convention. La question n'est pas là. Nous sommes tous d'accord pour dire que, d'une certaine façon, si elle n'est pas plus signée, c'est à la fois pour des raisons politiques qui sont des raisons politiques internes, comme vous l'avez rappelé, qui tiennent à l'état supposé des électorats, pour le dire vite. Mais c'est aussi pour des raisons politiques qui sont beaucoup plus fondamentales. C'est-à-dire que cette convention n'est qu'une étape dans une visée qui serait d'arriver à une gouvernance plus multilatérale, plus internationale des migrations. Aujourd'hui, dernier texte, la dernière déclaration, qui n'a pas force de loi, qui n'est pas une convention internationale, qui doit déboucher plus tard sur des pactes en 2018, mais on peut douter qu'elle débouche, c'est la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de septembre 2016, qui a connu une certaine actualité ces dernières semaines, puisque Donald Trump a dit que les États-Unis ne se reconnaissaient plus dans cette convention. Et si on lit ce texte, comme on lit les travaux préparatoires à la convention dont nous parlons aujourd'hui, ce qui est évident, effectivement, c'est qu'il y a une volonté de penser l'immigration comme quelque chose qui ne peut pas être pensé simplement du point de vue des États du Nord, qui ne peut pas être pensé simplement du point de vue des États qui se vivent comme des États d'immigration, qui ne peut pas être pensé simplement du point de vue de la souveraineté nationale, mais qui nécessite de nouvelles formes de gouvernance, une nouvelle forme de gouvernance qui soit plus multilatérale et potentiellement mondiale, puisque nous avons affaire ici à une des questions qui est au cœur de la mondialisation actuelle, et que la mondialisation actuelle s'est dotée d'instruments pour organiser, réguler les flux de marchandises, les flux financiers, mais que finalement, quand il s'agit de penser les circulations humaines, les textes sont très souvent des textes qui sont pensés du point de vue d'un des acteurs simplement, et pas du point de vue de l'ensemble des acteurs.
Mais alors justement, cette approche multilatérale, a priori, l'Union européenne devrait être une sorte de chef de file de cette approche-là, on a l'impression quand même, Jean-François Dumont, qu'on est plutôt dans la tendance inverse aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de renationalisation des politiques migratoires avec une extrême difficulté, c'est rien de le dire, on l'entend quand même dans différentes émissions depuis ce matin, à avoir une approche, si ce n'est commune, mais enfin en tout cas au moins cohérente en matière migratoire au niveau européen.
Alors, je voudrais quand même élargir, si vous voulez, au monde avant de revenir à l'Europe. L'approche multilatérale, elle existe quand même à des échelons régionaux. Prenons par exemple l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Elles ont supprimé le visa entre les 10 parties qui en sont membres. Prenons un autre exemple qui est la Communauté des États d'Afrique occidentale. Ils ont décidé de créer un passeport commun pour faciliter l'immigration entre la quinzaine de pays qui en font partie. En ce qui concerne l'Europe était bien partie dans une logique multilatérale. Ne serait-ce, si vous voulez, qu'avec l'espace Schengen.
Qui date de 1990, juin 1990 d'ailleurs, même année que la Convention de l'ONU sur les droits des migrants. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais enfin, il se trouve que voilà.
Alors, le problème, comme vous le savez, c'est que la mise en place des accords de Schengen n'était possible qu'à partir du moment où les pays membres de l'espace Schengen, qui n'a pas été créé au sein de l'Union européenne, l'espace Schengen, ce n'est que quelques pays qui se sont mis d'accord. Et ils ont considéré qu'il fallait d'abord qu'ils aient un système d'information commun. Pourquoi ? Parce que les pays considèrent qu'ils ne doivent pas laisser entrer dans leur territoire des personnes qui peuvent nuire à l'ordre public. Alors, prenons un exemple banal, si vous voulez, à supposer que celui qui se considère comme le calife de l'État islamique veuille pénétrer dans l'Union européenne, l'Union européenne considère qu'il faut l'empêcher de pénétrer parce que c'est quelqu'un qui peut être dangereux. Donc, effectivement, les accords de Schengen n'ont commencé à être mis en œuvre qu'en 1995. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Eh bien, c'est toute la stratégie de l'Union européenne. Vous avez rappelé mon livre Géopolitique de l'Europe, qui est une stratégie d'élargissement pour l'élargissement, sans tenir compte des possibilités d'élargissement. Donc, effectivement, il y a eu un élargissement de l'espace Schengen à des pays qui n'étaient pas en état d'assurer le respect des règles prévues par Schengen. Et du coup, le système a implosé. Et il a implosé, et pour moi, si vous voulez, l'espace Schengen est mort de ne pas avoir été appliqué. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le contre-feu qui est en train de se produire. C'est absolument dramatique, d'ailleurs.
Mais Gérard François, même les accords qui sont passés entre Européens, par exemple sur la relocalisation des immigrants, accord qui date d'il y a 2 ans, hein, c'était en... Oui. En 2015, dont on voit bien aujourd'hui, alors c'était 120 000 personnes qui étaient censées être relocalisées, je ne sais pas exactement quel est le terme qu'il faut utiliser. Au final, enfin 2 ans après, ce sont 32 000 personnes, je crois, qui l'ont été, alors que c'est quand même un accord qui a été signé par les membres de l'Union européenne à la majorité.
Mais je peux vous dire que dès le début, j'étais en désaccord avec cet accord parce qu'il ne m'apparaissait pas respecter les droits humains. Il n'y a pas de raison qu'on oblige un immigrant qui, par exemple, est aujourd'hui en Italie à aller en Lettonie au nom d'un certain quota, alors que peut-être que cette personne a un membre de sa famille qui se trouve aux Pays-Bas. Donc j'ai toujours considéré que cet accord ne pourrait pas être appliqué.
Mariette Grange, en termes justement de respect des droits humains et donc de respect des droits des migrants, vous avez quelle analyse, vous, sur cet accord de réaffectation de 2015.
Eh bien, tout d'abord, je dirais que cet accord traite de demandeurs d'asile et de réfugiés, à savoir des gens qui fuient la persécution et la guerre. Donc, je ne mélangerai pas les réfugiés et les migrants. Il a été fait allusion dans la discussion à 2 reprises à la Convention de Genève, qui est justement une convention qui protège les réfugiés. Et il y a eu justement une nécessité d'avoir une convention sur les migrants. Parce que ces populations n'étaient pas protégées. Donc, c'est pas la même chose. Justement, tout à l'heure, quand le professeur Dumont a parlé de la Turquie, il a effectivement raison que la Turquie ne reconnaît pas le statut de réfugié à des gens qui sont persécutés et qui arrivent sur son sol. Donc, de facto, on ne peut pas obtenir un statut de réfugié. Par contre, la Turquie héberge à l'heure d'aujourd'hui 3,5 millions de demandeurs d'asile et de réfugiés syriens, ce qui est beaucoup plus élevé que les 28 pays de l'Union européenne. Donc, c'était juste pour clarifier. Donc, en fait, ces 120 000, qui, à mon sens, n'étaient certainement pas suffisants, sont des demandeurs d'asile et des réfugiés et ne ressortissent pas du cadre de la Convention sur les migrants.
Il faut d'ailleurs rappeler qu'il y a eu un accord avec la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie, sur cette question. Et Emmanuel Blanchard, est-ce qu'on peut considérer, alors c'est ce que j'ai lu aujourd'hui dans Libération, où était évoqué notamment un rapport de la CIMAD qui parle des effets délétères des pressions européennes sur des pays de transit. Alors il y a les pays notamment nord-africains, il y a la Libye, et puis il y a la Turquie, où l'idée étant de finalement de décentraliser les politiques migratoires, et ce qui conduirait finalement à renforcer la pression qui existe sur les migrants lorsqu'ils arrivent dans ces pays de transit, parce que comme l'idée c'est en gros on vous donne de l'aide mais en échange vous gérez ces questions migratoires, ça renforcerait l'aspect répressif de ces politiques au niveau local.
Oui, effectivement, c'est ce qui est souvent appelé l'externalisation des politiques européennes d'immigration, c'est-à-dire de demander à un certain nombre d'États de devenir, pour le dire rapidement, des sortes de gardes-frontières de l'Union européenne, alors même que géographiquement, ils sont situés loin de l'Union européenne. Je donnerai, par exemple, le cas du Niger, qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité, puisque effectivement, même si le président Macron a pensé à un moment qu'il serait possible d'organiser en Libye des camps dit hotspot, excusez-moi, géré par l'Union européenne, l'instabilité politique de ce pays a fait reporter sur le Niger tout un ensemble de politiques et de desiderata. Et c'est très important puisque le Niger, il s'inscrit dans des espaces de circulation et parfois de libre circulation qui sont des espaces régionaux, sous-régionaux, ceux de l'Afrique de l'Ouest notamment. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'au nom de la préservation des frontières de l'Union européenne, humaines, des circulations, sont entravées dans des sous-espaces tels que ceux d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Un ensemble d'États d'Afrique centrale se sont organisés pour justement réaffirmer la nécessité d'abolir les visas dans cet espace, mais on verra ensuite, quand ils vont négocier d'autres types d'accords, notamment avec des États plus lointains de l'Union européenne ou l'Union européenne elle-même, comment seront réimposées des clauses qui, d'une certaine façon, viendront entraver ces circulations. Le second point auquel vous avez fait référence, c'est le fait que un certain nombre de frontières s'épaississent, qu'elles soient à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne s'est trop élargie ou pas? Il se trouve qu'aujourd'hui, les deux États qui sont cibles comme étant soi-disant des maillons faibles des politiques migratoires sont l'Italie, qui est un État fondateur de l'Union européenne, donc depuis le début des années 50, et la Grèce, qui appartient à l'Union européenne depuis le début des années 1980. Où là, on voit des systèmes de frontières épaisses où des personnes sont coincées pendant des années, par exemple sur les îles grecques de Samos ou de Lesbos. Mais ces frontières épaisses, on les retrouve aussi en Afrique du Nord, en Libye, par exemple. Et le drame, c'est que cette frontière épaisse, aujourd'hui, elle rend les personnes en migration, en circulation, certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles même, n'ayant pas forcément le projet d'aller dans l'Union européenne, prisonnières d'un pays qui obtient de l'argent pour jouer les gardes-frontières, alors que cet argent est en partie géré par des milices violentes dans un pays où la circulation des armes est énorme.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas là un vrai problème, Gérard-François Desmonts, c'est-à-dire d'avoir une politique européenne migratoire qui contribue donc à décentraliser finalement la gestion des migrants et à les rendre peut-être plus vulnérables dans des pays où leurs droits ont davantage de mal à être respectés?
Non, il est clair que la politique qu'a conduit l'Union européenne ces dernières années sur ces questions-là était totalement désastreuse. Totalement désastreuse, puisque nous avions donc des millions de Syriens qui se trouvaient en Turquie, en Liban et en Jordanie. Et non seulement on n'a rien fait pour les aider, mais on a laissé les passeurs les exploiter, puisque je rappelle pour la seule année 2015, les passeurs via la Turquie ont fait un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Alors que si on avait utilisé la méthode qu'on avait mise en œuvre au moment du conflit du Vietnam et du Cambodge, eh bien, on aurait étudié les dossiers et c'est nous qui, par avion, aurait transporté les personnes qui méritaient le droit d'asile et ont squeezé, en quelque sorte, les passeurs. Donc, il faut quand même bien préciser aussi que la Turquie, parce que madame a rappelé que la Turquie a plusieurs millions de réfugiés sur son sol, mais je voudrais rappeler que la Turquie, pendant très longtemps, a refusé tout simplement qu'on aille aider ces personnes et que deuxièmement, la Turquie a quand même nourri la guerre civile syrienne et en est responsable dans une large mesure. Donc c'est un peu une conséquence de ces premiers actes qu'elle est en train de subir. Alors la question d'externalisation, alors je ne veux pas donner la définition juridique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par nature, toute migration relève de relations entre les États. Parce que toute immigration est au départ une émigration, c'est-à-dire un départ d'un pays. Et donc, ce qui me m'agace toujours, si vous voulez, c'est qu'on étudie énormément l'immigration et on n'étudie pas assez l'émigration, qui est en fait le problème de départ, dans la mesure où la grande majorité des populations de ce monde, ils veulent vivre et travailler au pays. Et quand ils partent par une route migratoire, en général, c'est pas par gaieté de cœur.
Mariette Grange, on est quasiment au terme de la discussion. Je voudrais pas terminer cette émission sans vous avoir posé une question liée à l'actualité française et à ce que pourrait être l'impact de la Convention de l'ONU sur les droits des migrants si elle était signée et ratifiée par la France. Il y a notamment cette circulaire du ministère de l'Intérieur qui date du 12 décembre qui autorise les équipes mobiles et qui sont constituées des agents des préfectures à entrer dans les hébergements d'urgence pour vérifier la situation administrative des hébergés. Ça s'adresse notamment aux immigrants qui sont en situation irrégulière. Est-ce que si la France avait signé la Convention de l'ONU sur les droits des migrants, ce serait un texte qui serait opposable parce qu'il contreviendrait justement à ces droits?
D'une part, il faut savoir que la France met déjà en œuvre, alors qu'elle ne veut pas ratifier cette convention, je dirais presque 80% de la convention. Par contre, dans le cas qui nous occupe, si la France avait ratifié la convention, ce qu'elle ne pourrait certainement pas faire, c'est peut-être l'étape après ces contrôles intempestifs d'identité, ce serait de procéder à des renvois collectifs. Donc, dans la Convention, si un État souhaite renvoyer une personne en raison de l'illégalité de sa résidence, elle ne peut le faire qu'au cas par cas après un examen individuel. La France a ratifié d'autres conventions, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention pour la protection contre la torture, qui, dans le cas d'espèce, devrait aussi un peu limiter ce type d'action, à savoir qu'on ne peut pas renvoyer dans un pays une personne qui risquerait d'être soumise à la torture. Donc en fait, ces différents pactes sont un peu comme des éléments du Rubik's Cube.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gérard, François Dumont, Emmanuel Blanchard et Mariette Grange. J'en profite également pour remercier nos camarades de France Bleu, pays de Savoie en Chambéry, qui ont permis d'assurer ce duplex avec Mariette Grange. Merci également à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Élise Le.